Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je me suis fait un défi avec mes amis. Il y a quelque chose à gagner, des Patek et des Rolex. Ouais, je suis plus gaucher.
Les pénaltys, vous ne tirez pas du droit?
Si.
Pourquoi?
Parce que je tire mieux du droit.
How is your English? Oui, non.
Il a du droit.
Okay. Passez le bonjour à Daniel Riolo aussi.
Jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit et demi exceptionnellement ce soir pour analyser l'avant-dernière journée de Ligue 1. Nous sommes en direct sur RMC, nous sommes en direct sur After Foot TV, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de l'after, également l'after première radio de France toujours, le 32-16 est ouvert. Et Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Samuel Umtiti est là également, comme tous les dimanches. Salut Samuel.
Bonsoir à tous.
Les résultats, les gars, et les enseignements du soir. Alors, les résultats d'abord, le PSG bat Brest 1-0, Toulouse bat Lyon 2-1, Lille gagne à Monaco 1-0, Rennes bat le Paris FC 2-1, Marseille gagne au Havre 1-0, Angers-Strasbourg à partout, Auxerre bat Nice 2-1, Lorient gagne à Metz 4-0, et puis on ira en Espagne tout à l'heure en fin d'after, puisque ça y est, le Barça est champion. Barcelone a battu le Real Madrid 2-0 ce soir. Et puis il y avait un match en Italie aussi, l'Atalanta a gagné à Milan ce soir 3-2. Donc, bon, le PSG est virtuellement champion. Hein. Voilà, on voit mal le PSG perdre deux fois 7-0.
Oui, n'entretenons pas des faux suspens.
Voilà. Donc le PSG est champion, même si ce n'est pas mathématiquement fait. Le gros coup du jour, c'est Lille qui reprend la troisième place à Lyon. Avec un point d'avance.
Donc on ne fait pas les trois points si tu dis tout.
Non, je fais les principaux enseignements. Ouais. Non, parce qu'après tu peux rentrer
non,
un peu dans les détails.
Non, parce que c'est exactement bon, ce qui va arriver.
Maintenant tais-toi, ne me coupe pas, parce que c'est là qu'il faut que les gens comprennent bien ce qui se passe. Donc Lille passe devant Lyon un point d'avance. Marseille reste au contact des places européennes. Marseille est sixième ce soir, donc virtuellement en Conference League, avec deux points d'avance sur Monaco. Strasbourg ne peut plus être européen. Monaco peut encore l'être en fonction des résultats de la dernière journée. Et de la finale de la Coupe de France. Et puis en bas du classement, on savait que Nantes et Metz étaient en Ligue 2. Ce soir, Nice devient barragiste du fait de la victoire d'Auxerre à égalité de points, les deux équipes 31. Mais bon, il peut encore se passer plein de choses lors de la dernière journée. Voilà les principaux enseignements, ce qui nous permet bien sûr d'arriver tranquillement aux trois points. Jingle.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Dans cette soirée de folie, que retenez-vous, Daniel?
Les trois points vont concerner pour moi les résultats qui m'ont le plus marqué, les principaux enseignements. Donc évidemment hors PSG, puisque c'est pas une surprise pour moi qu'ils soient champions. Donc le premier point, c'est la défaite de Lyon. Je m'attendais pas du tout à ce résultat et ils se mettent dedans de façon absolument stupide en laissant échapper probablement la Ligue des Champions. Je suis assez bouche bée par ce qui s'est passé au Stadium. Le point 2. Monaco risque de terminer la saison hors zone Europe. C'est un club qui, à chaque fois, on en parle moins, alors que c'est une saison absolument catastrophique si effectivement ils sont hors zone Europe. Et mon troisième point, j'anticipe sur la semaine prochaine où on risque d'avoir au Vélodrome une finale pour l'Europa League entre Marseille et Rennes, enfin une finale qui concernerait surtout l'OM, qui devra battre Rennes pour aller directement en Europa League, ce qui pourrait être un sacré résultat pour l'OM. Leur victoire de ce soir leur fait beaucoup de bien.
Samuel, tes trois points.
Mon premier point, c'est la belle opération de Lille qui confirme encore une fois ce soir cet objectif qu'ils vont aller chercher de se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils sont très bien partis pour ça. Mon deuxième point, c'est Rennes qui reste encore dans leur position. Ils arrivent à prendre des points et à rester dans cette course-là, même si je pense sur le dernier match, ça va être là où on va voir vraiment leur ambition aux joueurs. Et le troisième point, bien évidemment, c'est Lyon. Grosse déception pour moi sur un match comme ce soir face à Toulouse. Ils devaient, on va dire, déjà valider leur qualification plus ou moins pour la Ligue des Champions. Et ça n'a pas été le cas ce soir.
Alors Lyon, dernier match, reçoit Lens, mais Lyon n'a plus son destin entre les mains alors que Lille reçoit Auxerre. Parce que voilà, on va démarrer par ça parce que c'est le petit basculement du soir qui pourrait être donc décisif pour Lille. Lille n'a plus qu'à battre Auxerre qui ne joue pas rien, attention, hein. Parce qu'au Serre, ils peuvent se retrouver barragistes. Hein, donc, ils ne joueront pas contre une équipe démobilisée, les Lillois.
Ok, d'accord. Mais encore une fois, si tu termines ta saison à domicile avec Calif, Ligue des Champions direct, et tu reçois au Serre et tu as peur d'une équipe qui joue le maintien, que ça puisse te préoccuper, oui, que tu puisses dire faisons attention. Mais en fait, il n'y a même pas besoin, normalement, de dire fais attention, tu n'as pas besoin de mettre un warning. C'est la Ligue des Champions qui est au bout, avec tout ce que ça peut représenter. Tu reçois au Serre, tu crois qu'ils préféreraient jouer quoi? Ok, peut-être une équipe du ventre mou, certainement. Mais je pense qu'ils préfèrent ça plutôt qu'un match, j'en sais rien, moi, contre Rennes ou une équipe pareille à domicile. Là, c'est t'as ton destin en main. Ce qu'a fait Lille ce soir, ça leur permet ça. Et c'est pour ça qu'à l'inverse, nous on a suivi une multiplex. Donc il y a peut-être des gens qui ont regardé spécifiquement tous les matchs et qui ont plus de développement sur ce qui s'y est passé. Le match de Toulouse, pour ce qu'on nous on en a vu, on entre dans la catégorie répétée mille fois cette année du je comprends pas quoi. Comment, après le redressement formidable des dernières semaines, la victoire de la semaine dernière, comment après même un mauvais début de match, l'égalisation de Tolisso, où tu te dis, bon allez, oublions ce qu'on vient de faire là et tout, maintenant, au minimum, on garde le match nul, parce que ça t'aurait permis quand même de garder un petit... Non, tu vas perdre contre Toulouse qui ne joue plus rien. Ça, je sais pas, Sam, si tu peux avoir une explication à ce qui peut se passer dans un match comme ça.
Ouais, non. Après, je
regarde les stats du match, possession, les occasions identiques de chaque côté. Je sais pas. Ça me surprend que Lyon puisse passer à côté sur un soir comme ça.
Bah, après les explications, je sais pas si forcément il y en a. C'est assez compliqué, comme tu le disais, sur une équipe qui, pour moi, tu regardes la semaine passée, sur les semaines dernières, ce qu'ils ont réussi à faire. T'arrives sur ton avant-dernier match qui peut, on va dire, te permettre de te qualifier pour la Ligue des Champions, en tout cas de garder, on va dire, une distance assez importante. Mais ça n'a pas été le cas. Mais au final, ils ont, pour moi encore, ils ont la possibilité de, parce que ils peuvent, bien évidemment, pour moi, sur un match face à Lens. Qui va être.
Ouais, mais faut que t'espères un faux pas de Lille.
Bah oui.
Enfin,
oui.
Comment il va arriver comme. Enfin, tu vois, je veux bien. Il peut tout se passer dans notre Ligue 1.
Mais il peut tout se passer, mais je pense que même en finissant quatrième, l'Olympique Lyonnais peut aller en Ligue des Champions.
Donc c'est bien ça, mais tu te rends compte de la différence?
Ah oui.
Alors après, je n'ai pas trouvé la confirmation 100% que si Paris gagne la Ligue des Champions, ça libère la quatrième place. Il me semble avoir vu. Alors ça n'est pas arrivé l'année dernière, hein, parce que Nice a joué le barrage contre Benfica. J'aimerais bien avoir la confirmation.
On va vérifier, mais moi j'ai pas vu ça moi.
Parce que.
Bon, tu l'as vu, toi?
Écoute, moi, il me semble avoir vu passer ça, mais.
Ça serait une énorme info, parce que ça change tout pour.
J'ai quand même du mal à y croire.
Alors, regardez quand même un cran en dessous, parce que Rennes n'est qu'à un point de Lyon, les gars. Rennes joue à Marseille. Bon, les Rennais, ils peuvent aussi
Lyon
se dire. Et nous, si on
ne pas battre Lens avec Rennes qui va gagner au Vélodrome, ce sera un dernier rebondissement dans cette Ligue 1, évidemment. Ouais. Non, mais on peut l'envisager, ce que tu dis là, est parfaitement envisageable, beaucoup plus pour moi qu'Auxerre qui va gagner à Lille. Lille, sur le dernier match à la maison, tu verrouilles le truc, tu joues Auxerre, tu vas pas en Ligue des Champions. Alors là, je veux bien que la Ligue 1, j'ai dit la semaine dernière, le lundi, c'est la Ligue 1 la plus folle en termes de choses inattendues. Bah, alors là, si on a ça sur la dernière journée, là. Carnaval, messieurs-dames. Carnaval, sortez les cotillons, tout ce que vous voulez.
Mais tout est possible, même si je pense que Lille, quand même, en gagnant ce soir-là, ils savaient que c'était pour moi le match le plus important, parce que tu finis à domicile. Mais c'est vrai que la grosse déception, c'est Lyon ce soir, qui va devoir, pour moi, faire l'un des plus grands matchs de la saison pour remporter, on va dire, ce match et se qualifier. Ou en tout cas rester à cette quatrième place.
Tiens, allons voir ce qu'a fait Lyon avec Yanis, qui est supporter de l'OL. Salut Yanis.
Oui, bonsoir.
Yanis, t'as regardé le match de l'OL ou t'as regardé le multiplex?
Je l'ai regardé dans un bar, tranquillement, le match tout seul.
Ah, t'as regardé le match de Lyon tout seul?
Alors tu vas pouvoir peut-être nous dire des choses qu'on n'a pas vues, nous.
Je vais dire à peu près les mêmes choses que je vois sur cette saison, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir une équipe de Lyon... qui est capable, comme le match contre Rennes, d'être efficace, d'être mobilisé, d'être hargneux sur les ballons, d'être de montrer un petit peu de la force. Et là, à l'inverse, ce soir, j'ai vu de la passivité. J'ai vu un manque de, pas un manque d'investissement, parce que ça, les joueurs ne peuvent pas leur reprocher cette saison. Ils nous ont fait vibrer, ils ont fait beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que Toulouse, en ayant moins le ballon, a réussi à être plus tranchant que nous. Nous, on est passé par énormément de centres, on est passé par énormément de...
Sur WhatsApp, on me dit Yaremchuk aurait dû ressortir beaucoup plus tôt, transparent.
Bah, de toute façon, Fonseca fait toujours ses changements de manière un peu tardive.
Il est sorti à la 83e.
Soul, j'ai rentré à, je crois qu'il remplace Mera, qui est peut-être bon, le moins expérimenté dans l'équipe, on va dire, et celui qui est peut-être le moins titulaire, on va dire, sûr. Mais sinon, les joueurs qui ont été sur le terrain, je peux pas dire qu'ils ont pas fait ce qu'il fallait, mais la vérité, c'est que Toulouse a fait un match beaucoup plus efficace, beaucoup plus concret, en ayant moins le ballon encore une fois. Ils ont réussi à être, je trouve, plus tranchants. Nous, on s'est beaucoup contenté de centre, en effet, d'abuser là-dedans. Le nombre de centres que j'ai vu, mais qui allaient nulle part, qui servaient à rien.
Alors moi, la seule explication, je sais pas si elle est valable, mais quand tu as à portée de main et que tout le monde se disait bon, Lyon ce soir peut verrouiller la Ligue des Champions, est-ce que c'est quoi? C'est dans l'approche du match, c'est mental, c'est un trop plein de pression mal gérée pour que sur le terrain tu ne retrouves pas le Lyon conquérant qu'on avait retrouvé sur les dernières semaines et notamment dimanche dernier dans le match fabuleux qu'ils ont fait. Comment tu peux? Enfin, moi je veux bien, Toulouse peut faire leur match de l'année en étant libéré parce qu'il joue plus rien, mais Lyon est pas à la hauteur ce soir, quoi. C'est, pour moi, c'est un vrai problème. Et ça peut venir que de l'aspect psychologique dans l'approche, en fait.
Ah, psychologique, je sais pas.
Tu étais un peu kéblo parce que l'enjeu, parce que, ouais, le match, on joue contre une équipe qui joue plus rien, on va le gagner. Faut peut-être de l'avoir gagné avant, quoi.
Ouais, non, je sais pas, parce que pour moi, si tu regardes, par où est passé l'Olympique Lyonnais cette saison, pour moi, ils sont capables de gérer ce genre de match. Il y a pas forcément de pression.
Au moment où c'est la bascule, ouais, c'est pas là où tu peux te rebloquer en disant putain, avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a subi, tout ce qui est passé, on gagne ce match et c'est le paradis. C'est pas là que ça peut te bloquer un peu?
Peut-être, mais pour moi, j'ai la mauvaise vision, mais je les vois pas du tout comme ça. Je pense même pas que c'est psychologique. C'est juste que pour moi, c'était pas forcément un non-match, ou peut-être manque de réussite, ou manque un peu de tout, réellement, parce que pour ne pas gagner face à Toulouse, même si Toulouse a été efficace, il y a aucun souci, mais pour moi, ils ont aucune excuse pour perdre ce genre de match-là, qui te qualifierait, on va dire, pour une Ligue des Champions. Pour moi, c'est pas acceptable.
Yannis, ouais, tu veux rajouter quelque chose?
Bah, moi, j'aurais un petit point à donner. Déjà, c'est que Toulouse, c'est la seule équipe qui nous a battu deux fois cette saison. Alors, ça peut paraître complètement anecdotique, mais je vois un peu les mêmes choses, c'est-à-dire que...
Alors, le match aller était assez terrible, hein.
Ouais.
Je me souviens du match aller, c'était vraiment c'est Lyon qui l'a donné, hein.
Voilà, et ce soir c'était quand même, on va dire, c'était quand même mieux, c'était plus consistant. Mais encore une fois, c'est ce qui nous a tué dans ce match, c'est le manque de solutions concrètes. Encore une fois, abuser de centre, abuser de long ballon. Dès la 60e ou la 70e, on n'était même pas encore à 11 contre 10, que je voyais déjà tous les Lyonnais partir et faire un creux au milieu de terrain, mais énorme. Donc compter sur, en effet, des différences individuelles parfaites par Moreira ou par Hendrick. Et il y avait un manque de Lyon, vraiment un manque de création. Et c'est un problème un peu récurrent pour Lyon quand il ne trouve pas la solution. Je l'ai vu contre Vigo, je l'ai vu dans plein de matchs. C'est un axe de progression qu'il y aura à faire pour l'année prochaine, évidemment. Je peux pas leur reprocher. J'ai adoré cette équipe et ce qu'elle a proposé cette année, parce que il fallait repartir, il fallait redémarrer, il fallait... Maintenant, voilà, c'est le dernier. Et le dernier match va être tellement, tellement fou, parce que il va falloir faire un exploit, alors qu'on peut finir en Ligue Europa. Si Rennes décide de faire un exploit et que nous, personne ne nous laisse pas gagner, évidemment. voilà, ça serait terrifiant.
Ah oui, franchement, la
dernière journée s'annonce assez folle, justement, hein, ouais, de ce point de vue-là. Entre le Marseille-Rennes et le Lyon-Lens, ça fait des affiches incroyables, quoi.
J'en profite d'avoir Samuel au téléphone. Samuel, je te remercie pas pour la fracture de la rétine de ta reprise en pleine lucarne contre Tottenham, évidemment, il y a quelques années, mais merci pour tout ce que tu as fait.
Rien, de rien. Enfin, je dirais rien.
Qu'est-ce que t'as envie de rajouter?
Non, je dois rien rajouter. Tu vois, un mec en tribune, il m'a dit que t'avais fermé les yeux.
Ouais, c'est ça.
Salut Yanis, petite stat de Najib, d'introducteur. Lyon menait 10 fois à l'extérieur cette année et hop, 10 défaites. Donc quand ils sont menés à l'extérieur,
mais le problème c'est pas d'avoir été mené ce soir. Enfin, c'est même pas de cette stat, c'est que, enfin, t'aurais même pas dû être mené. Ouais. Quoi. Moi, tu dois faire un match de patron ce soir, tu dois aller le gagner ce match. Quoi. Et le pire avec ça, on regardait le match. Quand Olise a égalisé, je dis allez, c'est bon.
Ouais, c'est bon, ils vont revenir.
C'est bon. Tu vas pas. C'est bon, Toulouse a fait votre match. C'est bon, ok. Il y a la fête des Indians, machin. C'est le dernier match. Ok, très bien. Enfin, stop, quoi. Vous jouez rien. Nous, on a Nous, on a Ligue des Champions ici, quoi. Là, moi, je suis déçu du côté mental des Lyonnais ce soir.
Bon, il est déjà 23h19, il y a plein de choses à analyser ce soir. On va passer à Lille dans quelques instants. On aura Paul au 32-16, après ce sera Marseille et puis tous les autres, bien sûr, on est là jusqu'à minuit et demi dans l'after, sans oublier l'Espagne, puisque le Barça, là, d'ailleurs, ils ont récupéré carrément le trophée du titre ce soir, hein, face au Real. Là, c'est la bonne humiliation du Real à Barcelone, jour de titre, en plus avec la semaine qu'ils ont passé.
Titre, bref. En termes d'un classico, je crois que c'est la première fois. En termes de claque à l'adversaire, c'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Ouais. Allez, à tout de suite avec le LOSC au programme.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Non, moi je me plains pas. Oh, tu lui donneras les blousons sans zip.
23h20, Daniel Riolo est là, Samuel Umtiti est là, la Ligue 1 au programme bien sûr, et l'avant-dernière journée, d'ailleurs la dernière journée, ce sera dimanche prochain, dans le même format bien sûr, et comme on aime les hommes de terrain, on envoie Daniel à Marseille pour Marseille-Rennes.
La semaine prochaine,
ouais.
Absolument. Ah, je sentais que ça allait être le gros match pour
t'avais
terminer.
Anticipé, tu t'es dit...
Je serai avec Flo Germain.
Tu t'es dit, je serais mieux là-bas qu'à Brest-Angers.
Et Jean-Louis sera où d'ailleurs?
Jean-Louis sera là, il sera en studio comme ce soir.
Ah oui, parce que comme c'est multiplex, il va pas sur zone.
Exactement.
D'accord. Je serai sur zone.
Très bien.
Bon courage.
Il aurait fallu que Sam soit à Lyon.
Lille a désormais.
Bah oui, ça
s'en fait une soirée tous à distance.
Ah ouais. Lille a désormais rigolo. Donc son destin entre les mains. Il suffira de gagner contre Auxerre ou alors de faire au moins aussi bien que Lyon pour finir troisième. Paul est là au 32-16. Salut Paul.
Salut Gilbert, salut Daniel, salut Sam.
Et donc c'est quand même extraordinaire pour une équipe qui soi-disant avait lâché son coach il y a quelques mois.
Ah, comme quoi le football ça va vite. Hein.
Ouais.
Non mais très 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 heureux, là on était sur une très bonne dynamique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu le match, mais c'était pas un grand match de football, il y avait énormément de déchets.
T'as regardé ce match-là ou t'as fait le multiplex?
Non, j'étais tranquille dans mon salon, que sur le match du LOSC.
Lille qui a raté pas mal d'occasions avant de marquer. Hein.
Ouais, exactement.
Moi, ils m'ont semblé, sur ce que j'ai vu, encore une fois, hein, quand tu regardes un multiplex, je pense pas qu'on ait une vision complète des choses, mais ils m'ont semblé quand même plus concrets, plus souvent dangereux que Monaco.
Ouais, pour le coup, oui, il y a eu beaucoup de déchets, mais je pense qu'en fait, Lille a commencé le match en disant on veut avoir notre destin entre les mains pour le dernier match, pour assurer au moins la quatrième place. Et honnêtement, devant ce Monaco-là, qui ne proposait strictement rien, je pense qu'au fur et à mesure du match, l'envie d'emporter, de prendre les trois points, est montée en puissance et on s'est fait de plus en plus présent.
Monaco, il va falloir qu'on en parle dans un instant, c'est quand même le beat de l'année.
Très décevant, Monaco.
Donc, jusqu'à profiter d'une énième erreur d'un défenseur monégasque et de pointer le but qui nous a fait les trois points et qui, je pense, nous a fait définitivement la troisième place.
Est-ce qu'on a déjà eu Lens et Lille en Ligue des Champions en même temps? Jamais, je crois.
J'ai pas le souvenir.
J'ai pas le souvenir non plus, ouais. En tout cas, pas récemment.
Ça se recherche.
Non, c'est Lille en même temps, en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, oui.
En Ligue des Champions,
je pense pas.
Bref, bon.
Je veux dire, on peut avoir des soirées de feu dans le Nord.
Ouais, dans le Nord.
La saison prochaine.
Je pense que le préfet du Nord-Pas-de-Calais, il va être serein.
Au minimum, Lille fait le play-off de fin août, déjà.
Ah oui, ça c'est sûr.
Voilà.
Non, c'est pas sûr.
Non.
Ah, tu vois, s'il faudrait qu'ils.
Rennes et Lyon peuvent passer devant.
Il faudrait
qu'ils perdent contre Auxerre.
Oui, mais je n'y crois pas là maintenant.
Je pense qu'il n'y a aucun univers dans lequel on finit pas troisième. Après,
écoute, moi je disais pareil avant le match contre le Rayo Vallecano de Strasbourg. Hein, donc maintenant,
Oui, mais je l'aurais moins dit.
Tu vois, tu l'aurais
moins dit que Lille Auxerre. Pardonne-moi.
Bon. Sur le match qui a été bon, qui tu veux mettre en avant, parce que là, franchement, ce soir, les Lillois, c'est un peu la soirée lilloise, en fait, en vérité. Hein, ce soir, s'il y a
le
une
gros
équipe,
coup du soir, c'est le LOSC.
Oui, on fait le meilleur coup de la soirée, je pense. Non, celui que j'ai envie de mettre un petit peu en lumière, c'est Meunier, qui, malgré son âge, honnêtement.
Qui jouait plus trop, première moitié de saison.
Il boude de toute évidence plus.
Non, qui jouait pas trop, je disais, en début de saison.
Et
qui
boudait plus aussi.
Ah, parce qu'il boudait, tu dis?
Ah oui, apparemment, il avait des gros problèmes avec Olivier Létang.
Ah.
Donc, écoute, de toute évidence, là, ça va mieux. Et non, il a encore fait un très gros match.
Ouais, grosse activité, oui.
Moi, par contre, celui que je peux plus voir, c'est Correa. C'est vraiment, enfin, je me demande si c'est un vrai joueur de foot.
Mais après, c'est un vrai joueur de foot, mais je suis pas sûr réellement de son niveau, de ce qu'il est capable d'apporter, parce que c'est vrai que sur les derniers matchs, même on voit qu'il manque d'efficacité, il manque même sur la percussion, il est pas vraiment Vraiment, pour moi, il est un peu décevant, honnêtement, sur ce qu'il propose offensivement. Après, on fait avec, en tout cas, le coach, je pense, essaie de lui donner cette confiance-là. Mais si on est réaliste, on voit que il a pas mal de lacunes. Il aide pas forcément cette équipe de Lille.
Habib Bey en conférence de presse. Paul, désolé, on te coupe quelques instants, mais on va tout de suite au Havre où Habib Bey s'exprime.
C'est pas être surpris, mais c'est une satisfaction de les avoir vus batailler ensemble, combattre ensemble. Parce que,
c'était nécessaire pour nous.
Habib Bey, on rejoint la conférence de presse.
C'est sûr que c'est une sacrée réaction des Marseillais. J'ai vu les semaines qui passent.
On va détailler ça dans quelques minutes.
Oui, parce que ce que j'ai dit, c'est que peut-être que les objectifs qu'on avait définis au départ ne sont pas atteignables aujourd'hui. Par contre, il y a une réalité, c'est qu'on veut finir quand même sur quelque chose de positif. Parce que dans la construction d'un club, il est important de bien finir, pour beaucoup de raisons. Et il est important aussi à domicile d'offrir à nos supporters qui ont vécu une saison très difficile un match qui compte et un match où on aura un état d'esprit de conquérant pour aller chercher une place en Coupe d'Europe et s'offrir une finale sur un dernier match de Ligue 1, c'est toujours une bonne chose parce qu'on aurait pu être hors course et n'avoir rien à jouer et là ça aurait été encore plus difficile, donc ça va nous donner de la motivation dans la préparation de ce match. Rien n'est acquis parce que c'est une belle équipe en face, mais tout est jouable, donc on doit se préparer pour ça et essayer de vivre une très très belle soirée.
Fabrice. Voilà, encore une question peut-être. Allez.
Justement, par rapport à cette finale pour la cinquième place.
Ouais, il parle de la finale pour la cinquième place la semaine prochaine, Marseille-Rennes en l'occurrence.
Si Habib Bey prend sa revanche sur Rennes, les battants dimanche, il peut y avoir des belles histoires sur la dernière journée quand même. Il peut y avoir des histoires un peu dingo.
Comme on l'a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que je vous l'ai dit, c'est ce qui nous a surpris sur les dernières prestations, c'est que les prestations n'étaient pas à l'image de l'engagement qu'il pouvait y avoir à l'entraînement. Cette semaine, on a eu un engagement de la part des joueurs qui a été remarquable.
Y compris dans les chambres.
J'ai entendu ici ou là qu'il y avait eu des comportements déviants et que le coach aura arrêté l'entraînement à cause de certains joueurs. Je pense que vous avez vu ce soir que il n'y a aucun problème entre mes joueurs et moi. Et pour ce qui est de l'absence de certains joueurs, il faudra poser la question et il ne faut pas me la poser à moi. C'est aujourd'hui une réalité. Je préfère parler des joueurs qui sont là. Et encore une fois, je valorise la totalité de mon effectif. Mais je veux surtout donner et mettre en avant ce que mes garçons ont fait ce soir et ce que les joueurs ont fait ce soir.
Voilà pour Habib Bey, on reparlera de Marseille dans quelques instants. On était sur Lille avec Paul.
Petite histoire de dernière journée, donc t'as Sage qui revient à Lyon avec un résultat qui peut être décisif. T'as Habib Bey qui peut en gros empêcher son ancien club avec qui il n'est pas parti en bon terme sur une finale. Ouais, il peut y avoir deux, trois histoires sympas.
Il y a PFC et PSG aussi, je ne sais pas si tu
vois l'histoire. Il n'y a plus rien.
Il n'y a rien du tout. Le PFC a éliminé le PSG en coupe.
Oui, mais là en l'occurrence, non, il aurait fallu le monde où Paris perdait ce soir, Lens battait Paris mercredi et le PFC empêchait. Non, mais là c'est un monde très compliqué celui-là.
Non, il peut y avoir un monde où le PSG, bon, ils ont une différence de but plus 44, Lens plus 20. Ne
cherche pas, Gilbert, tu vas pas
forcément. Il peut y avoir un monde où Lens bat le PSG, où le PSG perd sa dernière et Lens finit au même nombre de points que Paris.
Mais alors, c'est quoi?
Ouais, Paris serait champion, la différence de but.
Ah, mais ça. Wow.
Ah oui! D'habitude, le PSG sont champions avec 25 points d'avance. Oui, ouais, depuis...
okay. Belle histoire, hein. C'est franchement, là, c'est top.
C'est une sacrée histoire.
Hein. Merci, les gars. J'apprécie votre soutien. Paul, toujours là, supporter lillois.
Ouais.
Paul, qu'est-ce qu'on n'a pas dit qu'on a oublié?
J'aimerais juste mettre un petit coup de lumière sur N'Goy et Mandy qui ont encore fait un énorme match de patron. Je pense que Sam a dû apprécier s'il a pu regarder un petit peu.
Ouais.
Et surtout au-delà de leur qualité qui ont quand même été ceux qui ont sonné la révolte ce soir pour dire les mecs, il y a quand même 3 points à aller chercher. Et on a vu à plusieurs reprises N'Goy et Mandy remonter le terrain quasiment à eux tout seuls pour presser les attaquants. Et vraiment, c'est gros coup de chapeau à ces deux-là parce qu'ils sont vraiment énormes.
Ouais. Et pas que ce soir, mais c'est vrai qu'on a trouvé une belle charnière centrale avec N'Goy et Aïssa. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'expérience avec Aïssa et N'Goy avec sa jeunesse et son tempérament aussi. Qui là, je trouve que ça va bien, ça marche bien. Et ils arrivent à emmener tout un groupe aussi par rapport à ce qu'ils font. Donc je suis vraiment content. C'est vrai qu'il y avait ce problème-là peut-être au début du championnat où on savait pas trop qui mettre. Il y avait aussi Mbemba qui était là, donc il y avait pas mal de concurrence. Mais quand on a trouvé, en tout cas quand Lille a trouvé sa charnière centrale, j'ai trouvé que l'équipe allait beaucoup mieux. Et encore ce soir, grâce à eux, je trouve que ils emmènent cette équipe vers la victoire, et en tout cas sans encaisser de but.
Merci Paul.
Bonne soirée les mecs.
Salut, dans un instant l'OM avec Habib Bey là qui apparemment s'énerve après les médias et qui dit de toute façon c'est moi qui suis visé dans toutes les critiques. Donc apparemment, pour résumer, il a dit ça. On pourra peut-être le rentrer un peu plus tard, on va en parler dans quelques secondes. Daniel, confirmation, à la quatrième place, il y a un barrage. Hein.
D'accord.
Donc
le fameux play-off qui sourit au club français.
Oui,
j'ai oublié le pas dans la phrase, pardon.
Qui ne sourit quasi jamais au club français.
Oui, après, c'est sûr, si tu t'y prends comme Nice l'année dernière... Oui, et puis en plus il joue au Benfica.
Après, il faut avoir un peu de chance au tirage.
Mais si tu t'y prends comme l'OM,
t'es à peu près sûr de jouer quand même un club.
C'était l'OM Panathinaikos, bon, c'était l'année d'avant.
Oui, c'était en confessionnel, c'était même pas en Ligue des Champions.
Mais si, bien sûr que si.
Non, l'OM Panathinaikos.
Mais c'est un barrage de Ligue des Champions.
Il y a Lille qui a réussi.
Voilà.
Mais sinon, Marseille, c'était compliqué.
Je crois que sur les 5 dernières années, on avait regardé là. Enfin bref, je crois que c'est passé qu'une seule fois pour les clubs français.
Ouais. Ces dernières années, c'est compliqué, effectivement. Oui.
Dans un instant, l'OM au programme. Ensuite, on parlera de Monaco et puis des autres, bien sûr. Du PSG, bien sûr, virtuellement champion ce soir, à quelques jours de la finale de la Ligue des Champions. On est là jusqu'à minuit et demi dans l'after. On se retrouve dans quelques secondes.
RMC, jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h34, Samuel Umtiti est là, Daniel Riolo est là, on a encore une belle semaine.
Bruno Genesio se dirige vers le plateau de Bein Sport.
On va l'écouter plus tard. Je voulais vous dire qu'on a une belle semaine dans l'after qui arrive. Déjà demain, nous sommes au cinéma Pâté de Valence, dans la Drôme, pour l'étape...
Eric Roy, qui reste à Brest.
L'étape du... Oui, tu permets, là, je suis en train de parler. Donc demain, on est à Valence au cinéma Pâté, si vous êtes dans le coin, vous pouvez passer. Vous envoyez un mail à public@rmc.fr. Pâté de Valence pour parler. Il y a beaucoup de Lyonnais à Valence, de Marseillais aussi, de Stéphanois. C'est assez partagé comme endroit. On verra ça demain soir. Voilà. Mardi, Steph Mandanda sera dans l'after. Il sort bouquin sur sa carrière. Ouais.
Wow.
Ouais, il sera là. Mercredi, il y a les matchs avec le fameux Lens PSG.
Bon. Il dit que t'es sympa, je crois, dedans.
J'espère quand même.
Et jeudi, liste de Deschamps pour le mondial.
Ah, ça oui.
Autant dire que là, il y a une semaine.
Et la veille, il sera sorti le doc sur Naïsna, très attendu sur Netflix.
Voilà.
Quand même, ça va nous rappeler notre jeunesse dans l'after, ça,
avec Naïsna. Le mythique François Malardo, bien sûr, qui est dedans.
Bien sûr. Il explique tout enfin, il était temps.
Et oui. Voilà. Donc,
Genesio tout sourire.
Voilà la semaine à venir de l'after, ne ratez rien. Tout sera dans l'after. Alors, tu parlais d'Éric Roy, on en reparlera tout à l'heure de Brest.
Éric Roy reste à Brest.
Ça, c'est une info.
Écoute.
Parce qu'il y avait une incertitude sur son.
Alors, non.
Il aurait dit si c'est pour continuer à bricoler avec des bouts de ficelle.
Sache quand même que, honnêtement, j'aurais mis beaucoup sur Lorenzi à Nice parce qu'on était au-delà de l'accord verbal. C'est comme on dit toujours.
Lorenzi qui quitte Brest, le directeur sportif.
Quand les gens nous disent.
Qui va peut-être être rerouté vers Marseille.
Parfois, tu t'es planté, machin, et attention. Des fois, tu peux avoir parlé directement à la personne. Elle peut t'avoir dit, je reste ou je pars et je vais là.
Et après.
Et le lendemain, en un coup de fil, Lorenzi, j'aurais mis ma main au feu. Pour moi, il avait déjà signé. Le contrat était prêt. S'il y a, sur le chemin, un coup de fil, parce que là, maintenant, visiblement, Marseille le veut absolument et ça a l'air d'être bouclé pour Marseille. C'est autre chose, mais...
T'es directeur sportif, t'as le choix entre Nice et Marseille. Tu réfléchis quand même, vu la saison marseillaise, quand tu vois ce qu'a traversé Benatia, par exemple.
En fait, le problème, c'est que tu peux pas dire comme ça. Là, nous, ici, autour de la table, tu réfléchis.
Et Nice, quel moyen
c'est
Ineos, ça. Tu sais pas.
C'est qu'avant de décider, nous, on n'a pas le projet de Nice. Est-ce qu'ils vont remettre du blé ou pas? J'ai l'impression que non. Oui, a priori, même si c'est bouillant...
Déjà, pardon, mais là, Nice, tu sais même pas s'ils seront liés.
Je vois Marseille, mais bon. Mais Nice, moi, j'aurais fait le duo. Tant qu'à faire, j'aurais pris et Lorenzi et Éric Roy. Éric Roy, parce que c'est chez lui, c'est un Niçois. Il rentre à la maison.
Oui, mais
Lorenzi, parce qu'il a bien travaillé. Moi, je fais ça si je suis.
En fait, la tendance, c'est que Puel reste.
Moi, je te dis ce que j'aurais fait si j'étais dirigeant niçois. Moi, je prenais le duo. Je faisais Lorenzi, directeur sportif, et je récupérais l'enfant de la maison, quoi.
On en reparlera tout à l'heure de Nice. Là, on est sur Marseille, et on a Gad avec nous au 32-16. Salut, Gad.
Salut, vous m'entendez bien?
Ça va et toi? Oui, on t'entend bien.
Ça va. Bonsoir tout le monde.
T'as regardé Marseille ou t'as regardé Multiplex?
Eh ben, je vais dire mieux. J'ai fait 2h30 de route pour aller au Havre sous un déluge total pour regarder Marseille. Alors franchement, le stade était très sympa, les supporters aussi. Au niveau du foot, je sais pas ce que j'ai vu ce soir. Je sais pas si c'était un match de foot ou autre chose. J'ai absolument rien vu offensivement. Je vais pas faire le rabat-joie. On a gagné, mais bon. Oh, le niveau du match était pitoyable offensivement. Je ne sais même pas si on a eu une action ou si j'ai vibré sur une action.
Tu veux dire que ça va être compliqué de battre Rennes?
Bah, je sais pas, à domicile, peut-être que Bay il aura la rage, peut-être que les joueurs ils vont essayer de se battre pour lui, mais moi j'y crois pas une seconde, parce que même s'il dit que tout le monde il a pas de problème avec les joueurs, je pense que les joueurs attendent qu'une seule chose, c'est qu'ils partent et de partir aussi selon certains joueurs. Donc on va voir pour la cinquième place. Après la finalité, c'est quand même que même si on s'y attendait un peu, encore, enfin on va faire une année sans Ligue des Champions finalement. Donc un projet qui va encore repartir de zéro, on va encore tout recommencer avec Benatia qui va partir. Enfin bon voilà, ce club part un peu dans tous les sens tous les ans et bon ça continue sans changement. Quand il y a un projet, ça change à chaque fois. En tout cas au niveau du match, c'était là, on va pas se mentir, très beau stade du Havre d'ailleurs, mais alors le reste, waouh, un niveau vraiment très faible. Le Havre n'a pas proposé grand-chose non plus, on n'a pas vraiment vibré des deux côtés. Et franchement, il y a pas eu un joueur qui s'est vraiment démarqué des autres. Un pénalty venu d'ailleurs et un pénalty raté de Bouffal aussi.
Ah oui. Ouais, c'est ceux qui aiment bien les signes et qui croient à ces trucs-là vont dire bon voilà, c'est la fin de saison de l'OM. Ça va enfin sourire tellement on a été noir. Bon, OK. Peut-être voir ça parce que Bouffal qui rate le péno comme ça, Rouli qui fait un méga arrêt derrière d'ailleurs.
Ouais, un arrêt énorme derrière, ouais. Mais alors je pense que s'ils égalisent, on reste un partout et on ferme le rideau, hein.
Oui, je pense que c'est bouclé après.
Une autre raison de marquer, surtout quand on voit les changements à la fin. Alors, j'ai rien contre les jeunes, hein, mais quand on voit qui rentre, les Lago, l'attaquant aussi, Kamisoko, enfin que des jeunes qui ont absolument après tant mieux qu'ils rentrent de les voir jouer, mais bon, je pense pas que ce soit des futurs.
C'est sûr que Rennes, ça m'a l'air quand même beaucoup plus au point.
Je pense que contre Rennes, ouais, ça va être un peu
au vu, je parle pas globalement, hein, je dis juste au vu de l'état de forme actuel, que Marseille bat Rennes sur le dernier match, ce serait une énorme performance.
Ouais, j'imagine.
Je parle vraiment dans le contexte actuel, hein, évidemment.
Quand tu regardes la dynamique
des moyens des deux équipes et tout.
Tu regardes la dynamique de Rennes et après tu regardes celle de Marseille, ça n'a rien à voir. Mais je pense que sur un match et sachant qu'ils jouent au Vélodrome, après ça peut se passer aussi de cette manière où ils se disent on est obligé de montrer un autre visage aussi aux supporters.
Ouais.
Mais moi j'ai du mal à y croire ça, mais c'est que mon avis. Mais je pense qu'ils sont vraiment sur une dynamique très négative et jouer face à Rennes qui pour moi qui est très bien en ce moment, ça va être compliqué.
Et à Tolisso qui parle.
Sur Liga Plus, ouais, on pourra peut-être le réentendre. Alors tiens, Gad, on va réécouter Habib Bey, parce que c'est le petit morceau de conférence de presse dont je vous parlais là pendant la pub. Donc on va le découvrir ensemble, mais vraisemblablement, coup de gueule d'Habib Bey, on écoute.
Et après, moi, ce qui me dérange, c'est pas ce qui est dit, c'est les mensonges vis-à-vis de moi et de ma personne. Parce qu'on va être très clair maintenant. C'est pas une question de savoir si c'est l'Olympique de Marseille, où il y a toujours ces problèmes-là à l'Olympique de Marseille. Je vais être factuel. C'est qu'aujourd'hui, c'est des mensonges qui sont aujourd'hui mis sur la place publique vis-à-vis d'Habib Bey. C'est pas l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Je vais vous dire, quand je le lis, il n'y a pas marqué Habib Bey, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il y a marqué Habib Bey, il y a eu un problème avec Mason Greenwood. Quand je regarde sur tous les autres coachs de Ligue 1, il y a marqué Bruno Genesio, l'entraîneur de Lille. Il y a marqué Francaise, l'entraîneur de Rennes. Moi, il y a marqué Habib Bey, il y a eu un problème avec Mason Greenwood. La problématique que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes rentrés dans une course à l'info, à la mauvaise info et au mensonge qui n'est plus du tout vérifié. Et je parlais il y a quelques semaines de déontologie journalistique. Et c'est là où je dis que c'est un problème. Il faut vérifier les informations. J'ai jamais arrêté l'entraînement par rapport à Mason Greenwood. Et j'aimerais que tout ce qui soit dit sur moi, vis-à-vis de mes joueurs, mon groupe, soit des informations qui soient vraies. Si elles le sont, je vous le dirai.
Il a parfaitement raison. Et ce qui s'est passé sur cette fin de saison était absolument dégueulasse à Marseille. Et certains journalistes, le matin, feraient bien de se regarder dans une glace parce qu'ils ont beaucoup raconté de conneries. Je ne sais pas dans quel but. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai souvent dit, les réseaux sociaux dictent des conduites et qu'il y avait une mode, il y avait une tendance, une hype, une traîne, vous choisissez le terme que vous voulez, pour démonter Habib Bey depuis 2 mois. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire tout ce qu'il a fait est formidable, il a super bien entraîné l'OM depuis qu'il est là, il n'a pas fait d'erreur, c'est pas ça que je suis en train de dire. Il y a eu des mensonges, il y a eu des histoires inventées. Et on a voulu atteindre, on a voulu lui faire du mal. Et les réseaux sociaux l'ont fait, pour les motifs qu'on a évoqués plein de fois. Et certains journalistes suivent les réseaux sociaux et se disent ce sera bien, ça évitera qu'on se fasse insulter sur les réseaux. Si on suit cette hype-là, Et ça, il y a de plus en plus dans notre métier des jeunes journalistes, ou jeunes ou même moins jeunes, qui ont peur de ce qui va être dit sur les réseaux et qui préfèrent être dans le bon train.
Ouais, mais
et ça, c'est gravissime. C'est notre métier est en train de crever à cause de ça.
C'est bien que tu le dises, mais je pense que Habib Bey, il a vraiment subi là dernièrement, mais c'est ça se passe. En tout cas, ça fait des années maintenant que ça se passe comme ça et que les journalistes, moi, j'ai du mal à comprendre un peu leur métier à l'heure actuelle. C'est que des informations qui sortent ne sont pas forcément les vraies. Donc, avant de les sortir, il faut vérifier si l'information est bonne. Et on peut détruire un entraîneur, mais là, c'est quand t'entends Habib, c'est vraiment l'homme qui est touché. Et je trouve que c'est des choses qui ne se font pas. Mais à l'heure actuelle, avec les réseaux, c'est beaucoup plus facile de le faire. Et je pense que les journalistes, honnêtement, se trompent en faisant ça. Ils pensent qu'ils font du bon boulot, mais ils sont en train de tuer ce métier.
Bon, Habib Bey, peut-être qu'il paye aussi sur sa période consultant.
Il n'a pas à payer.
Mais n'empêche que l'image qu'il a aujourd'hui dans le milieu, c'est très bien que les gens se disent ça. On peut le dire ici, même si on n'est pas d'accord.
Mais on n'en a rien à foutre de ce que les gens disent. Ça, c'est un truc de réseau. Moi, je te parle des journalistes. Il y a deux quotidiens. Fin de saison, je pense que je vais régler 2-3 comptes. On va attendre. Ils n'ont pas à relayer ça. Ils n'ont pas à se mettre dans ce mouvement-là. Que sur les réseaux, on répète 150 fois Riolo est un con. J'en ai rien à foutre. Je les emmerde tous. Qui disent Habib Bey est un con, qui disent Riolo défend Bey, ou Riolo fait ça. De toute façon, tout ça, c'est du vent. Ils racontent n'importe quoi. Ils isolent des phrases. Ils prennent un truc. T'as dit ça sur Luis Enrique en découpant, machin. Ça, on n'en a rien à cirer de ça. Les mecs, ils font leur vie sur les réseaux. Mais que ça dicte une conduite chez certains journalistes qui ont peur ensuite. Parce que, très honnêtement, aujourd'hui, vraiment, vraiment, les réseaux sont tellement forts, il faut être solide. Il faut être solide pour supporter les vagues. Même, je le dis même pour moi. Hein. Moi, maintenant, ça va. Je suis vieux. Mais franchement, il y a certaines vagues pour les prendre. Il vaut mieux avoir une sacrée bouteille, une sacrée expérience. Et donc, je pense qu'il y en a qui ont peur de ça. Qui ont peur d'être dans le mauvais train. Et de prendre la déflagration. Enfin, il va falloir quand même qu'on analyse également tout ce qui s'est passé dans cette fin de saison. Il y a un très bon article que je vous ai envoyé là sur ce qui s'est passé autour de Mbappé notamment. Il faudra qu'on décortique également tout ça. C'est hallucinant. On a pris un virage là sur les réseaux. Et ben il a pris de plein fouet ça dans la gueule. Et encore une fois, quand je dis ça, les gens ne noteront pas la nuance. Quand je dis, mais ça veut pas dire que je dis ce qu'il a fait à l'OM, c'est formidable, qu'il a fait les bons choix, bonnes compos, qu'il s'est pas trompé. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. On parle pas de la même chose, mais on n'arrive plus à compartimenter, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à nuancer. C'est plus possible.
Surtout, il faut faire la différence entre Habib Bey consultant, Habib Bey entraîneur.
Ça rien à voir.
Et en fait, tout le monde met tout dans le même sac.
C'est différent. Non.
Bon, Gad, toujours avec toi. Est-ce qu'il y a un joueur que tu sauves quand même sur le match de ce soir là, un mec qui a été bon,
Est-ce que Greenwood a été bon justement?
Greenwood, franchement, il a été très bon. Enfin, il a essayé de faire quelque chose, mais franchement, il n'y a pas eu de joueurs qui ont essayé de combiner vraiment avec lui. Ouais. C'était un peu en dessous. Peut-être un joueur que je sors du lot. Peut-être qu'on va me tomber dessus un peu. Mais peut-être Balerdi, que j'ai pas trouvé mauvais sur les défenses. Il a été assez malin sur les attaques. Il a eu beaucoup de fois l'attaquant du Havre qui s'est beaucoup fait avoir par ses fautes.
Et pas Chao.
Pas que Chao, franchement, je vais pas mentir, hein. je l'ai trouvé un peu invisible. Après, il s'est un peu découvert quand tout le monde est sorti et que c'était lui le seul vrai offensif. Il a mis un but hors jeu. Alors, je sais pas, j'ai pas regardé les images. S'il était bien hors jeu à la fin, il met un but à la 95e.
Oui, il est bien hors jeu.
Je sais pas s'il est de loin ou pas. J'ai pas vraiment regardé les images. Sur le direct, j'avais pas l'impression, mais je vais pas vous mentir, quand il y a eu hors jeu et qu'il y a eu le dernier coup franc, je me suis dit bon,
apparemment, bon match d'Emerson.
Ouais, il a été solide, Pavard un peu dans le dur.
Et Gouiri est enfin revenu. Lui, vraiment, je ne m'explique pas les saisons de Damien Gouiri. Bah, c'est toujours pareil. C'est quelques bons matchs par-ci par-là et à l'arrivée, une saison, il n'y a rien.
Sa blessure aussi en milieu de saison qu'il a un peu.
Mais je sais, mais il est tout le temps blessé.
Ouais, mais bon, ça, il y a des choses, c'est pas.
Ah, mais Sam, tu connais mieux que moi le sport de haut niveau. Le physique, c'est une composante.
Ah oui, bien évidemment.
C'est une composante. Si t'es tout le temps blessé, oui, mais ça veut dire qu'on peut pas tout le temps, ça veut dire qu'on peut pas compter sur toi, en fait. C'est un souci.
Alors que c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur.
Mais s'il est là tout le temps, évidemment. Évidemment que c'est un bon joueur.
Gad, t'as tout dit?
Juste il y a Rouli aussi quand même, il sort une parade qui est importante.
On l'a dit,
il
ça
pas
ouais.
Grand chose à faire sinon. Mais ouais, sinon bah heureusement qu'il a été là, mais après il y a pas eu grand monde qui était vraiment Timber il est quand même vu du stade, en tout cas, il est quand même assez impressionnant. Il perd pas beaucoup de ballons. C'est la pièce maîtresse, en fait. C'est pas vraiment un milieu offensif, hein. Il joue un peu comme un 8, comme un 10, mais c'est pas du tout un 10. Et il est quand même assez impressionnant vu du stade. Il perd pas de ballons. Il est solide, technique. Franchement, Timber, excellent joueur. J'espère qu'il va rester l'année prochaine, même ça m'étonnerait. Mais bon, voilà.
Voilà, pense pas à l'année prochaine, vieux.
Ouais, pense déjà à Marseille, prochain,
là. Pense à dimanche prochain.
Salut Gad, rentre bien, hein, du coup. T'étais au Havre. Salut Gad. Bon, puis Aubameyang, on sait pas s'il sera là, lui, la semaine prochaine, du coup. D'ailleurs, on sait pas s'il va y avoir recommanderie cette semaine.
Ah, ça aussi, c'est.
Là, ce serait. Bah, là, ils ont gagné, donc a priori, il n'y a pas de raison. Ou alors, on va dire, ouais, mais regardez, ça a marché.
Qu'il les laisse souffler un peu.
Je pense qu'ils ont besoin de souffler un peu. C'est pas facile.
Ça, t'as compris, toi, Sam, l'exaspération des joueurs de. La concentration obligatoire.
La première exaspération, c'est celle du directeur sportif. Après, il y a eu celle des joueurs d'être enfermés.
Oui, quand on en vient à un joueur, en l'occurrence, qui va vider un extincteur dans la piole du pion. Pour schématiser, mais du gars qui était là.
Ce qui se passe, ils ont demandé un peu de vie, non? Ils avaient besoin que le groupe vive bien. Et pour moi, ça, c'est des moments, ok, c'est pas à faire. Mais après, sanctionner comme ça, même, c'est des choses pour moi qui devraient même rester, je dirais pas dans un vestiaire, mais dans l'équipe. C'est des choses qui ne devront même pas sortir à la presse. C'est des moments de rigolade. Et je pense que ça, moi, je l'ai vécu, même en équipe de France, ça s'est produit même. On a tellement rigolé.
Ah, bah, l'extincteur de Rami.
On sait très bien.
Il y a un truc entre les footballeurs et les extincteurs, hein. Je sais pas,
J'ai envie de te dire, je ne comprends pas. je ne comprends pas. Mais au final, c'est des moments comme ça pour moi qui sont pas simples, de rester autant de temps dans un endroit, que ce soit dans un hôtel. Et je peux comprendre qu'au bout d'un moment, waouh, tu te dis, ouais, j'en peux plus. Donc je pense que là, ils ont gagné très bien.
La cocotte a explosé.
Ouais, la cocotte a explosé. Ils ont besoin un peu de liberté et ça leur ira très 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 bien.
Bon, voilà pour Marseille. Dans un instant, Monaco au programme. Il y a pas mal de réactions sur Monaco ce soir. Ensuite, le PSG, les autres équipes. On est là jusqu'à minuit et demi dans l'after. On se retrouve tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h51, Daniel Riolo et Samuel Umtiti sont là. On va jusqu'à minuit 30 ce soir, évidemment, parce que il faut qu'on dise un mot de tous les matchs de Ligue 1. Il y avait du suspense de partout, quasiment. Et puis, on ira également en Espagne tout à l'heure aux alentours de minuit 15, minuit 20 pour tout savoir de ce qui s'est passé dans le match Barça-Real du soir. Message sur WhatsApp de Paul, supporter de Monaco. Il lui dit, on parle beaucoup de Marseille, de Lens, de Paris, mais il faut absolument parler de Monaco. Échec catastrophique, humiliation en Ligue des Champions, rappelez-vous du 6-1 à Madrid. Changement d'entraîneur foireux, nous dit Paul. Au mauvais moment, à Thiago Scuro, qui est néant. Un staff de performance pas au niveau, des joueurs pro pas au niveau. Et bon, pour Paul, il n'y a rien qui va à Monaco.
Ouais, quand tu regardes là la fin de saison, moi je suis habitué à voir Monaco normalement faire des super fins de saison. C'est une équipe que tu vois dans les quatre premiers, mais au final ils arrivent à se qualifier, ils finissent deuxième, troisième, et c'est une équipe qui me plaît. Mais là sur les dernières semaines, c'est catastrophique, zéro. C'est une équipe qui me plaît pas, même ce qu'ils font sur le terrain, offensivement, défensivement. Ça manque de pep, ça manque d'engagement, ça manque de tellement de choses. Et que là, maintenant, ils vont finir la saison sans rien.
Bon, Monaco entre.
Ils peuvent quand même jouer la Conférence League si Lens gagne la.
C'est également la catégorie des on comprend pas. Cette année, tu analyses leurs séries, elles sont incompréhensibles entre les moments où ça a bien marché et où ça a été cata et leur bonne série. Mais le problème, c'est qu'après, les autres aussi en ont fait des bonnes séries. Donc c'était bonne série contre bonne série. Mais à un moment, faut bien finir. Quand je vois, mais après, c'est toujours pareil, les commentaires sur les équipes selon qui tu es, on t'analyse d'une certaine façon. L'OM a certainement fait une saison terrible, qu'ils peuvent peut-être sauver limite la semaine prochaine, au moins en ayant l'Europa League, mais ce sera vraiment une petite consolation. Mais Monaco, quand on parle de budget, c'est deuxième ou troisième budget quand même de France. Le travail, il est terrible là. S'ils ne sont même pas en Conference League, l'échec, il est fou en fait. Ils sont nuls au niveau institutionnel parce qu'ils n'existent pas dans le concert du football français. Alors, soi-disant président, là, comment il s'appelle, Sartori, là, à part cirer les pompes de Nasser, il fait rien. Ils existent pas. Thiago Scuro, il aura beau retourner dans tous les sens, à chaque fois les analyses, quand ça marche, il sort du bois pour dire, ah, mais regardez, on a fait ci, machin, finalement, tout n'était pas si noir. Pocognoli, bah, là pareil, on a changé d'avis 40 fois sur lui cette saison. À l'arrivée, il va y avoir un bilan. Ce sera net, clair. On est 8e. Enfin, 8e pour Monaco, c'est pas possible en fait.
Non, c'est pas possible.
Et avec un marché qui s'annonce très animé, avec Louche, départ, Balogun, probablement départ aussi. Enfin, ils vont faire quoi? Ils vont continuer avec Golovin qui fait un match sur 10. Enfin, combien il fait Golovin? 4 bons matchs dans l'année, il fait Golovin. Bon, ils vont faire quoi en fait? Zakaria, ils vont réussir à le garder ou à un moment ou un autre jet fait partir l'année dernière.
Camara, bon, sur le départ aussi, ça a été sans doute l'un des meilleurs de l'année.
Ah, évidemment, ça a été un des meilleurs cette année. Oui, là, je pense que l'Angleterre l'attend. Monaco, c'est dur hein, quand même. Très, très dur.
Hein. Et Pocognoli, est-ce qu'il, pareil, est-ce qu'on continue avec lui? C'est vrai qu'il est compliqué de savoir où va aller Monaco.
Ah, on va attendre la bonne parole de Thiago Scuro.
Monaco qui joue à Strasbourg, prochain match. Bon, Strasbourg, du coup, qui joue plus rien, puisqu'ils n'ont pas gagné à Angers ce soir. Donc, bon.
Je pense que Monaco, ils peuvent aller gagner.
Il y a quand même un truc, c'est que si Monaco gagne et que Marseille perd, ils ont encore un enjeu, là, Monaco. Ils peuvent terminer 6e. Ils sont qu'à 2 points de l'OM.
Ouais.
Et l'OM peut encore tout perdre, en fait. Enfin, tout perdre.
Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui.
Donc, il reste quand même, malgré tout, si on est supporter de Monaco, ce petit espoir-là, en quelque sorte. Voilà pour la SM. Au 32-16, nous n'avons pas de supporter monégasque qui a appelé. On peut donc passer au dossier suivant, dossier PSG quand même. Les gars, ils ont eu du mal à gagner. Bon, enfin bon, ils l'ont fait.
Ils l'ont fait avec des joueurs qui ont été mis au repos, des joueurs qui étaient aussi sur le banc. Il a fait tourner et ça fait du bien à ce collectif. Et on savait très bien que cette équipe de Paris, en tout cas, allait remporter ce match ce soir et valider sa... Son titre, même si à 99% encore, il leur reste ce petit pourcent pour aller, pour que ça soit officiel. Mais cette équipe de Paris, on le savait depuis un moment que le championnat était pour eux. Ils ont fait le travail jusqu'au bout et je pense que le club est concentré sur un autre objectif. Qui est la Ligue des Champions. clairement qui est la Ligue des Champions et je peux le comprendre. C'est cet objectif-là. 2 années consécutives d'aller remporter une Ligue des Champions, je pense que ça se passe pas tout le temps. Donc c'est normal que les joueurs, en tout cas, soient focus sur ça maintenant.
Ouais. Bon, alors Gonzalo Ramos, décidément, quand il est titulaire, il marque pas lui. Hein.
Oui, voilà, franchement, c'est anecdotique. Hein. On a quasiment oublié qu'il était là. Sur le PSG, j'aimerais commencer par un point textile très important.
Ah, le nouveau maillot, là, le 25e de la saison.
Ouais, mais c'est celui de l'année prochaine.
Avant qu'à la première journée de la semaine prochaine,
c'est le maillot de l'année prochaine.
Oui, il présentait ce soir le maillot de l'année prochaine. C'est un maillot historique. Ouais. Ça me touche beaucoup, ça me rappelle ma jeunesse. Donc c'est le vrai maillot du PSG. Donc pour tous ceux qui aiment ce club depuis,
dans ta jeunesse, il y avait sur le maillot le nom d'une radio qui n'était pas la bonne. Si je peux me permettre.
ils ont eu ces couleurs-là avec une marque de voiture aussi. Voilà,
c'est vrai.
Et pour tous ceux qui ont aimé le PSG, même avant les Qatarix, c'est formidable de voir ce maillot. Ça me touche beaucoup, j'aime beaucoup. Sans le PSG, fait honnêtement, ils font tout bien. À part le côté politique institutionnel de la LFP, avec les bizarreries de Nasser, le reste, que ce soit sportivement, même détail comme ça, mais ce qu'ont fait les supporters en allant. C'est la casse qu'il y a eu là dans l'expo Vivre Ensemble de Yann Arthus Bertrand.
Ah, j'ai vu ça.
Les supporters soient allés relever. Et
oui, aller aider à remettre en place l'expo suite au saccage du soir du match.
Je sais pas si vous en avez parlé ce week-end et tout, mais j'ai trouvé que c'était un geste bien. Ce soir, c'était les 10 ans du CUP aussi. Il y avait une fête, c'était bien. Non, vraiment, ils font tout bien. Ils invitent des anciens présidents, des anciens joueurs. C'est une période absolument faste. Pour le PSG, c'est absolument formidable. Et que là, dans cette période, ils sortent le vieux maillot pour renouer avec le passé et tout, c'est parfait. À part Nasser, tout va bien. Quoi.
Il y a toujours quelque chose.
Non, mais la politique, c'est important.
Je connais Daniel. En 20 ans d'after, c'est rare qu'il se dise tyrambique comme ça sur le PSG, je te le dis.
Mais là, qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, c'est non, mais après, on est quand même obligé de dire que la Ligue 1 est dans cet état parce qu'il y a eu des choix complètement fous et qui perdurent. Donc, j'aimerais qu'ils changent. Ils ont fait un premier pas sur la répartition des droits internationaux, mais ils ont juste, en un claquement de doigts, ils peuvent changer le football français et sans que eux, ça leur coûte rien. Qu'ils le fassent. Faudrait juste rouvrir les yeux.
Dans un instant, on aura Ahmed qui était au Parc des Princes. Il nous dira ce qu'il a vu ce soir. Et puis après, on passe aux autres rencontres du jour, notamment au duel à distance entre Nice et Auxerre pour la place de barragiste. Encore pas mal de choses à analyser ensemble. Dans quelques instants, le 32-16 est ouvert. N'oubliez pas également notre numéro WhatsApp pour nous appeler, nous écrire, pardon, 0612-424-424. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit 30.
L'after foot.
Il est minuit et l'after va jusqu'à minuit et demi exceptionnellement ce soir avant le RMC Poker Show. Évidemment, Samuel Umtiti est là, Daniel Riolo là et Ahmed est avec nous.
Très important ce soir.
Ah bon, pourquoi?
Ah, parce que c'est l'inauguration du club Partouche à Paris, avenue de la Grande Armée. On n'a jamais vu ça en France, même en Europe.
Avec Maxime Partouche.
Maxime. Ah non.
Maxime Partouche, non. Maxime
Partouche.
Ouais, mais il s'appelle Partouche, mais c'est pas le même. Hein.
Extraordinaire.
Très bien.
Un club, on a enregistré l'émission là-bas en fin d'après-midi, un truc de fou. Mmh. Je te promets, c'est fou. Bon, toi tu joues pas au poker, j'y vais, mais un jour tu viendras.
Je sais pas. Ah, t'es pas trop poker?
Tu peux aller jouer au craps aussi si tu veux.
T'as bien raison,
moi. Tu sais que table de craps, ça n'existait pas en France jusque-là.
Ah ouais?
Il n'y avait que à Vegas ou à Monaco.
Très bien.
Maintenant, il y a ça à Paris.
Sur WhatsApp, France, on me dit, Daniel adore les partouches.
Magnifique. Super. Ah, vraiment.
Je pense qu'il pensait à Maxime Partouche.
Ouais, surtout, ouais, ça peut être ça. Ouais.
Ahmed, supporter de Paris. Salut Ahmed.
Salut, merci de me donner la parole.
Bah, c'est avec plaisir. T'étais au stade?
J'étais au garage de Boulogne.
Oula, t'as plus de voix, toi.
J'ai plus de voix, j'ai tout donné.
Bon, t'as vu un match comment? Raconte-nous.
Tendu, parce qu'on voulait quand même les 3 points pour être tranquille quand même par rapport au match.
Ah, parce que t'étais pas tranquille avant?
Pendant une première mi-temps, on n'a rien vu du tout, donc on poussait, mais...
Ouais, Brest a même eu les 2 occasions, hein.
Ouais, le gardien, pas mal le gardien, le jeune, là, Renato, il a fait des arrêts.
Oui, Renato Marine, il a fait un bel arrêt en 1 contre 1 contre un attaquant brestois, en effet.
Puis il a fait rentrer les pros en deuxième mi-temps, et là, ça s'est accéléré, ils ont vraiment fait le siège, et en plus, c'est cool, c'est côté Boulogne, donc on les voyait quand même pousser, quoi. On se disait, on voyait qu'ils voulaient vraiment prendre les 3 points. Et Doué a trouvé l'ouverture et ça a été explosion dans le stade.
Homme du match, Désiré Doué?
Ah, il marque, hein, il rentre, il marque.
C'est pas lui qui a été désigné homme du match en tout cas.
Ah bon?
Je crois que c'est Mayulu, si j'ai bien vu.
Mayulu fait un bon match, il a fait des belles accélérations.
Ben voilà, donc c'est lui l'homme du match.
Vraiment, il s'est bougé, Mayulu, on l'a envoyé partout.
Bon, t'as le temps de te refaire la voix d'ici le 30.
Ouais, petit barbecue, comme d'habitude, familial.
Ah, mais oui, Ahmed, bien sûr. Bah, côté, oui. Je remets Ahmed, on connaît bien Ahmed, il est déjà venu en after, il est déjà venu physiquement nous voir.
D'accord. La veille de la Ligue des Champions.
Bien sûr, je me souviens très bien.
Je vous avais dit que je faisais ça à barbecue, que ça portait plaisir.
Donc là, tu refais la même cette année, barbecue pour la finale?
La même.
Putain, merde, et comment tu fais s'il pleut le 28-29
mai? C'est ce que tu m'avais dit il y a un an.
Ah, non, ouais. C'est toujours la même.
Ah ouais, donc t'as ton cérémonial, tu vas pas.
La pluie, c'est
tu vas pas vrai, changer,
faut
quoi.
Faut que c'est abrité, quoi.
Ouais, non, mais la deuxième étoile, je la veux. Hein. Je m'en fous. Je la veux. Ça fera super décor. Ouais, je voulais vous dire, le deuxième maillot, il est mitigé hein, au niveau des supporters.
Ah ouais, ça passe
lequel,
pas.
Lequel deuxième maillot?
Ah non, le maillot qu'ils viennent de mettre ce soir, là.
Il est mitigé. C'est le maillot historique, il est mitigé. T'as des amis Qatarix, alors?
Non, mais...
C'est le maillot historique. Comment tu peux ne pas l'apprécier?
Moi, je préfère le blanc avec les deux bandes sur le côté, ouais, celui-là.
Là, t'as les couleurs d'origine, ça, c'est
oui,
le...
Je l'avais quand j'étais jeune.
C'est le maillot historique.
Jean-Luc Tour, qui est un connaisseur, déplorait que l'liseré blanc est trop large.
Ça, c'est vrai. S'il faut pinailler.
Ouais, mais il faut le rendre moderne un peu le maillot.
Le liseré, c'est la bande blanche qui sépare les couleurs, c'est un peu gros. Mais vraiment, en faisant ça, parce que quand j'ai vu ce maillot, moi, c'est.
Les couleurs déjà.
Mais moi, il y a un truc qui me surprend dans ce maillot. Personne ne dit ça, mais vous avez vu comment le sponsor est Rikiki?
Oui, c'est très bien.
Tout petit, Qatar Airways. Ouais. Peut-être que Qatar Airways, ils s'en foutent. Hein.
Sûrement, mais moi je trouve les couleurs, c'est vraiment les couleurs de Paris de l'époque. Et je les trouve tellement.
Comment on peut pas aimer ce maillot historique? En plus, c'est le meilleur lancement de maillot de l'histoire du PSG.
C'est-à-dire en termes de vente?
En termes de vente.
Mais il est déjà en vente là?
Oui.
Cette année, le PSG, ils en ont porté 15 des maillots différents.
Non, mais celui-là, c'est pas pareil. Celui-là, c'est l'historique. Oui, c'est celui qu'on attendait en plus. Tu avais l'impression.
Et qui sont les gogos qui vont acheter tous les maillots de l'année?
Les gogos, je m'en fous. Mais
à 150 balles le maillot.
Moi, je les achète pas tous les ans.
Mais Paris,
celui-ci,
marche.
Mais celui-ci, oui. Celui-ci, oui. Toi, autant je vais pas être le gogo, il va prendre celui avec les flammes là, parce qu'on t'a fait tout un cirque, les flammes, les maillots, enfin tous ces trucs.
Ah mais tu l'as pas celui-là avec les flammes là.
Lequel, le maillot noir?
Non, le noir, il est affreux. Le bleu là avec les flammes, soi-disant porte bonheur.
Ah, le bleu de la finale de l'an dernier.
Moi, j'aime les couleurs. Moi, j'aime l'identité. Celui-là, je l'ai vu. J'ai eu l'impression que Rai allait rentrer sur le terrain.
Oui, c'est celui-là.
Bon. Écoute, il sait pas celui que le PSG portera lors de la finale. Donc Ahmed, on a compris que toi, t'as barbecue le 30, tu vas
c'est
pas
bien
la veste.
Le sponsor plus petit, parce que s'il avait été plus gros, il coupait les bandes.
Ouais.
Et Qatar Airways a accepté d'être plus petit. Pas mal, non?
Merci Ahmed.
Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a mes frères et sœurs, tout le monde va chez. C'est une réunion familiale.
Ah, le barbecue.
Pour le barbecue, oui, ah, oui. Surtout pour le PSG. Donc,
Mais quel rapport le barbecue avec le maillot du
parce
coup
parce que c'est sa finale, okay. Il nous explique sa finale.
Ah,
Ahmed.
Pardon. Ah,
oui. Bah, écoute, on vous souhaite à tous un
donc
bon barbecue.
Tu diras à tes potes rabat-joie que c'est le maillot qui va le plus se vendre dans l'histoire du club.
D'accord.
Mais je trouve les supporters.
Salut Ahmed.
Parisiens, vous aimez bien quand même vous trouver à chaque fois la petite.
Râler.
Ouais, râler.
C'est un truc de parisien,
ouais,
de râler.
Ouais, je comprends.
Le râler sur le maillot qui a les couleurs historiques du club.
Ouais, je comprends pas.
Le vrai bleu et pas espèce de bleu marine ou de bleu machin. C'est les couleurs de Paris, c'est le bleu roi et le rouge.
Bon, après cette minute textile, parce que vous n'avez pas grand chose à dire sur le match, d'après ce que je vois. Passons aux autres matchs du soir. Parce qu'il y a d'autres choses quand même à signaler. On n'a pas parlé de Rennes. Rennes, attention, qui est passé pas loin du couac, hein, parce qu'ils étaient menés par le Paris FC. Ils ont réussi à renverser le match, les Rennais. Donc bravo, ils restent dans la course. Je pense qu'ils se sont bien fait peur quand même, Rennes, ce soir, Sam.
Ouais, ils se sont fait peur, mais encore une fois, ils ont très très bien réagi et rapidement, ils ont enchaîné comme ça.
Avec encore un Leupold de fou.
Ouais, Leupold de fou, il marque. Et c'est un joueur, j'aimerais quand même qu'on en parle.
Ah, ça va tomber, équipe de France.
Non, moi je dirais pas ça. Non,
déjà dit que c'était non.
Je dis pas que c'est non. Tant mieux si.
Je l'ai dit en conférence de presse ce soir.
Mais
tout le monde s'y met. Hein.
Mais en tout cas, moi je dis que par rapport à ce qu'il fait, il faudrait quand même qu'on ouvre les yeux, qu'on se rende compte que.
Ah, mais tout le monde dit qu'il est bon, qu'il fait une grosse saison.
Mais je trouve qu'on en parle pas assez à mon goût. Mais quand on parle de l'équipe de France. Moi, je sais qu'à mon époque et même avant, il fallait faire bien plus pour être appelé en équipe de France. C'est pas simple. Il y a des joueurs. Quand on regarde offensivement en équipe de France, les joueurs qui a, qu'est-ce qu'on va faire? On le prend, ça veut dire qu'on enlève quelqu'un?
Bah oui, forcément.
Donc c'est
bon, la cela difficulté. Il faut faire bien plus. Moi, je suis sûr de Kimpembe appelé en équipe de France, qui était deux fois titulaire avec
mais,
le PSG.
Mais donc là, je vais revenir là-dessus aussi. Oui. On parle de Presnel qui joue au Paris Saint-Germain, qui jouait la Ligue des Champions. Et quand tu joues la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, c'est pas la même chose que de jouer des champions que des matchs.
Oui, mais
de
lui, il jouait quasiment pas. Enfin, il débarrait à peine.
Non, mais je comprends ce que dit ça.
Non, c'est pas la même. C'est pas la même chose du tout. Tu joues au Paris Saint-Germain déjà pour jouer titulaire au Paris Saint-Germain.
Déjà l'entraînement au PSG, c'est plus fort.
Et ensuite, tu joues la Ligue des Champions, c'est un autre niveau. Donc, même si t'es plus jeune, même si t'as deux matchs, trois matchs, pour moi, t'as la capacité d'être appelé en équipe de France.
On va parler d'Auxerre et de Nice, donc par voie de conséquence, parce qu'on a Mickaël qui était.
Mais il est de retour surtout.
Et voilà, et qui était au stade à Auxerre. Salut Mickaël.
Salut à tous. Et oui, j'étais dans cette belle ambiance à Auxerre.
T'es auxerrois?
Alors, je suis pas du tout auxerrois, je suis troyen.
Ah!
Ah bon, ma mère, normalement, ça marche pas les deux.
Ouais, mais bon, on n'est pas loin et ça permet d'aller voir du bon football. Et puis là, il y avait quand même une belle ambiance.
Ah, mais tu supportes pas Troyes?
Alors, Troyes est champion de Ligue 2, donc c'est quand même une belle année. Mais moi, je suis supporter PSG au départ. Hein.
Ah oui, attention quand même à ce que la crête pousse pas là, parce que supporter trois clubs en même temps, dont deux que normalement on supporte pas dans le même coin, là ça fait un peu footix dans ce que tu nous dis là.
Non, parce que quand tu m'as fait rêver à parler du maillot et de parler de rail, je trouve que t'as complètement raison sur le maillot.
Ah bah oui.
Bon alors t'as vu un beau match, ça avait l'air sympa parce qu'il y a eu du rebondissement, et tu as Auxerre qui du coup se crée une petite dynamique avant d'aller à Lille là.
Exactement, et franchement au début du match c'était un peu chaud parce que Nice a quand même bien démarré le match avec ce premier but. Et en fait, finalement, on a vu un Sekou Mara qui a égalisé et qui est devenu, moi je trouve, resplendissant au fur et à mesure du match. Et Auxerre a poussé. Et en deuxième période, il mérite de passer devant 2-1 avec Sinayoko qui a été très très bon aussi, je trouve, sur cette deuxième période. Et l'ambiance qui a été folle, ils ont poussé leur équipe. Et franchement, on a vu un beau match.
Pélissier, depuis des semaines, il dit non, on va se maintenir.
Que ce soit par le barrage, que ce soit
il y a quelques semaines, on pouvait lui dire t'es gentil, mec.
Le championnat, je vois pas Nice ne pas gagner contre Metz. Auxerre, ce serait une énorme sensation d'aller gagner à Lille.
Donc, c'est-à-dire que la logique serait qu'Auxerre soit barragiste.
Et après, ils se démerdent dans le barrage, quoi. Et dans le barrage, on verra contre qui ils vont tomber, si c'est Saint-Etienne ou Red Star.
Je rappelle qu'au barrage, c'est le club de Ligue 1 qui reçoit au retour. Ce que moi, je trouve anormal, mais bon. Ça devrait être le club de Ligue 2.
Non, je trouve pas ça anormal.
Ah bon, je trouve ça normal.
Non.
Ça veut dire que tu as plus de mérite de finir fin de Ligue 1 que de finir en haut de Ligue 2. Tu vois ce que je veux dire?
Moi, je trouve que ça me choque pas.
C'est normal.
T'es en Ligue 2, c'est normal. Faut aller à la conquête jusqu'au bout.
Ouais.
Faut aller la chercher.
Si tu la veux, ta Ligue 1.
C'est l'élitisme à tout prix, quoi. Voilà.
C'est quoi?
C'est l'élitisme à tout prix.
Mais n'importe où.
Ah, Gilbert.
On parle de la conquête à tout prix.
Qui, côté niçois, qu'est-ce que t'as vu, Michael? On n'a pas compris que Wai soit pas titulaire.
Alors, c'est vrai que.
Il était un peu blessé, non?
Nous, on l'a vu.
Enfin, toi, tu le sais pas parce que t'es d'Auxerre.
Non, nous, on l'a vu s'échauffer devant nous. C'est vrai que quand il était pas titulaire, on était un peu surpris aussi. Après, quand il est rentré, il n'a pas eu beaucoup de ballons. Nice, en deuxième période, je trouve, n'a pas eu beaucoup d'occasions, à part failli avoir une grosse boulette de Donovan Léon et finalement sauvé sur la ligne. Hormis ça, on n'a pas trouvé les Niçois vraiment dangereux en deuxième période.
Et celle de Wai aussi. Celle de Wai du gauche.
Oui, qui a repoussé un peu avant la ligne.
À la toute fin, oui.
Non, mais Wai, je crois qu'il était un peu blessé, à confirmer. Sinon, c'est incompréhensible. C'est le seul gars qui, en ce moment, porte Nice. Après, quand enfin Diop se montre, parce que lui aussi, c'est un vrai bon joueur, comme on le voit trop peu à Nice. Le nombre de fois où il est bon dans l'année, c'est largement insuffisant. Pourtant, c'est un bon joueur. Mais Wai, en ce moment, c'est le gars qui porte Nice. Donc, c'est impossible qu'il soit pas titulaire. C'est forcément qu'il avait un problème physique.
Après, sur le premier but, le duo Chaud-Diop, c'est le premier but, avec une belle basse profondeur derrière.
Ah ouais, mais c'est pas, t'as le droit d'en rajouter un aussi. Enfin, sinon je comprends pas pourquoi il est pas titulaire. S'il était au top.
Mickaël.
Et par contre, je peux dire un petit bémol.
Ouais.
Vraiment un petit bémol. J'étais avec un pote au stade. Je mets un petit bémol sur l'arbitrage qui a été haché et qui a pas laissé jouer. Bon. Je suis désolé, on a vu un beau match de foot et c'était haché alors que franchement, les deux équipes avaient envie de jouer. Pour le coup, on s'attendait à un match fermé, c'était pas le cas.
Dis-moi, sur ma petite fille, je vois que tu es professeur de tennis.
De padel même.
Ah, de padel.
Ah, de padel, ça n'a rien à voir avec le tennis.
Ah, d'accord, je pensais tennis.
J'étais tennis avant et maintenant je suis padel.
Ah oui, jusqu'à quel niveau tennis?
J'ai été 2-6 au tennis.
Ah, bien, propre, oui.
Ouais, parce que Daniel a quelques soucis en ce moment.
Je reviens pas mal.
Ah bon?
Mais je suis
bégé. Ah, tu fais des compètes là encore?
Non, j'arrive plus à faire les tournois, j'ai plus le temps, malheureusement.
Ouais, difficile les compètes de tennis.
Oui, bah oui, il faut se libérer.
Bienvenue
tout.
Au paddle bientôt alors.
Non, ça c'est bon, ça va. Je tiens encore debout, donc c'est bon.
Salut Mickaël.
Merci en tout cas, merci à tous.
Bonne soirée. Avant de parler du reste de la Ligue 1, là, je voulais dire un petit mot de mon ami Anne Ciseau.
Ah bon, voilà, bah Sam, tu veux aller boire un verre? S'il démarre sur un ciseau, on n'est pas
dans
d'être là.
Aller, hein.
Non, ça va aller vite, surtout que votre avis m'intéresse.
Ouais,
on peut. Ah bah non, on va pas se permettre.
Donc un ciseau, 3 pénalties en 2 matchs, il en met qu'un seul en fait.
D'accord.
Ouais. Ok.
Et tu lui en veux?
Je lui en veux parce que il tire sans lever la tête, comme d'habitude. Contre le Rayo Vallecano, s'il lève la tête, il voit que le gardien part 5 secondes avant, il a juste ouvert le pied. Voilà. Il le fait pas.
Non, mais de toute façon.
Et là, ce soir, il retire le même.
Les mecs qui
du même côté.
Comme ça dans la frappe, cette tendance-là, je la supporte plus. Je supporte plus les mecs qui tirent les pénaux.
Et donc, il a la chance que ce soit retiré. Et là, tu te dis, bon, là, il va changer. Il va bien, à un moment, je sais pas, lever la tête, faire un truc différent. Et là, il refait encore la même.
Mais il marque. Ah, ouais, voilà. Mais je pense que t'as un autre problème avec lui, mais il y a un souci.
Bah,
ah, une petite fixette.
Ouais, je pense. Ouais.
Une petite fixette.
Bah, quoi, vous trouvez que c'est un bon joueur?
Je pense qu'il a un potentiel, mais c'est vrai que pour l'instant il est un peu baduf quand il joue.
Merci.
Il a un potentiel, bien évidemment.
Mais tu dois pouvoir bosser sur lui pour lui faire. Faut augmenter son QI football. Faut vraiment lui augmenter son QI foot. Mais je pense qu'il a quand même pas mal de talent.
Et donc Angers, de son côté, a pris le point qu'il maintient, donc ce qui est quand même à l'échelle d'Angers.
Je me suis jamais inquiété pour Angers.
Ouais, Angers.
Oui, non, on avait été avec l'after à Angers.
Ouais, c'est pas parce qu'on y est allé qu'on s'inquiétait pas.
Ouais. Mais... Non, mais on s'inquiétait pas déjà à l'époque. On avait
donc
dit.
On s'inquiétait pas.
Au coach qu'on avait reçu, Alexandre Dujeu, qui est très sympa.
Oui. Et tout le monde, hein, on avait été très bien reçu.
Exactement. Et donc dernier match de la carrière de Capel.
Moi, j'ai trouvé le moment assez émouvant quand il est sorti.
C'est beau, ça.
C'est les histoires de petits clubs avec des joueurs fidèles à leur club. Nous, vu de l'extérieur, on se dit ah ouais, mais eux, ça. Ah, voilà,
il a quand même quasiment 300 matchs.
Voilà, le public était énorme. Touché, lui était touché. J'ai bien aimé cette image. Ouais.
Bon, voilà. De quel match est-ce qu'on n'a pas parlé ? On n'a pas parlé de Metz-Lorient, mais je ne sais pas si.
Non, on peut s'en passer.
On peut s'en passer. Ouais. Voilà. Lorient a gagné 4-0. Donc,
non, rendez-vous la semaine prochaine. J'ai hâte de cette dernière journée qui va être un peu folle.
Ça va être un peu fou.
Ouais.
Avec tous les matchs cette fois en même temps. Et donc en milieu de semaine, Lens PSG et Brest-Strasbourg, qui est un autre match en retard, mais qui du coup n'a plus aucun intérêt, ni pour Brest, ni pour Strasbourg. Celui-là, bon. Je sais pas si il va passionner les foules. On va partir en Espagne dans quelques instants. Et puis il y aura l'actualité du jour, évidemment. Également, Edgar Grollo va nous rejoindre pour le dernier quart d'heure de l'After. À tout de suite.
RMC jusqu'à 12h30, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Il est minuit, Samuel Umtiti et Daniel Riolo sont là. Demain, vous savez, les droits de l'âme seront évidemment au rendez-vous à 20h comme tous les lundis avec tout le foot européen et le suspense un peu de partout. Aujourd'hui, les deux gros matchs, c'était Arsenal qui jouait face à Aston Villa. Mais là, on va surtout parler du Barça qui est champion. Et là, humiliation ultime pour le Real. Le Barça champion face au Real en gagnant 2-0, mais tranquille, en fumant la pipe. Edgar Grollo est là. Edgar, bonsoir.
Salut Gilbert, salut tout le monde.
Salut, personne fume la pipe. Oui, il n'y a pas eu de suspense ce soir. Finalement, il y a eu le seul moment un peu chaud après les buts, ça a été 2-3 échauffourées. On se disait, tiens, que va faire Tchouaméni? Mais il restait calme. Et donc, à Madrid, j'imagine l'humiliation quoi, sur le terrain de Barcelone, le titre pour l'adversaire.
Ouais, non, mais là, c'est clairement l'une des pires semaines de l'histoire récente du Real Madrid. Il y a absolument rien qui va aujourd'hui au club. Et ce soir, ils sont. Alors, il y a 2-0. Le Real a aussi eu des opportunités, mais le Barça peut en coller 4. Hein, si t'as pas Courtois dans les cages qui est de retour ce soir, il y a notamment deux situations de 1 contre 1 qui sauvent avec des arrêts classiques. Courtois, j'ai envie de dire qu'il y a très peu de gardiens qui sont capables de faire ce genre d'arrêt. Mais le Barça, t'as raison, Gilbert, hein, a joué quasiment en trottinant. Il y avait une marge énorme par rapport au Real. Je dis en trottinant avec le ballon parce que c'est vrai qu'ils avaient ils donnaient une impression de facilité. Mais dans l'intensité, dans ce qu'ils mettaient aussi, dans le cœur qu'ils ont donné, qu'ils avaient ce soir, ils sont aussi au-dessus du Real Madrid. Parce que c'est ça qui est inquiétant. Oui, techniquement, il y a un gap entre les deux équipes et tactiquement aussi. Et ça, on n'est pas surpris. Mais aujourd'hui, dans l'envie, il y a aussi un gap entre les deux équipes. Et après la semaine qu'a passé le Real Madrid, ça, c'est inacceptable pour les Madrilènes de voir des joueurs marcher. Il y a des séquences qui tournent de Vinicius qui marche alors que le ballon est à 2 mètres de lui et que les autres font le pressing. Mais il n'y a pas que lui. Tous aujourd'hui sont pas au niveau. La compo en elle-même, quand tu regardes les 11 joueurs qui sont alignés et ceux qui sont sur le banc. Mais je pense que dans 15 ans, les gens regarderont cette compo avec un peu de recul et se diront, mais comment la direction a pu laisser la situation en arriver là? Donc, c'est vraiment l'humiliation.
Ah,
mais
moi, il n'y a que ça qui m'intéresse maintenant. Hein. Je suis impatient de voir le ménage. Hein. Je suis impatient de voir ce qui va se passer, quel entraîneur ils vont prendre, qui ils vont garder. Mais excuse-moi, juste en passant une petite parenthèse, quand Vinicius sur le terrain là, il courait pas quand le ballon était à 2 mètres, c'est à cause de Mbappé, non? Ça doit être de sa faute quelque part, non?
Non, c'est
comme c'est lui qui a explosé le vestiaire, et tout est de sa faute.
Mbappé aussi se fait
de sa faute.
Très critiqué par les supporters ce soir. Mais
évidemment, il manquerait
pas. Écoute. Il y avait 2-0.
Voilà. Il y a 2-0, il poste un à la Madrid, alors que tu vois sur sa story 2-0 pour le Barça. Donc.
Oui. C'est pas.
Il aurait peut-être mieux fait de le faire avant le match.
On n'a jamais dit qu'en matière de com, il était très malin.
Il peut se tromper, mais je pense que là, ça fait des jours et des jours qu'on lui tape dessus. Et à tort, je trouve, on abuse un peu un peu beaucoup. Je pèse mes mots, mais
c'est même un phénomène. Ouais. C'est même un phénomène qui a été analysé et pour dire que c'est unique, qu'on n'avait jamais vu ça dans l'histoire du foot.
C'est beaucoup trop et que je me demande bien à quoi ça sert en fait tout ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de juger. J'ai l'impression la saison du Real par rapport, on va dire, à chaque fois, c'est le problème, c'est Kylian, et j'ai du mal à comprendre ça. Et je pense qu'ils ont fait des mauvais choix ça soit la direction, même sur des joueurs. T'as une époque où t'avais des Modric, des Kroos qui géraient tout un groupe, t'avais des leaders. Et là, au final, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont créé en formant ce groupe-là, c'est pas bon du tout. C'est pas bon. Et je me souviens quand Xabi Alonso part, et c'était Xabi Alonso quand même qui était là, hein, et je reste persuadé que c'est un grand entraîneur, mais il y a des choses qui sont passées dans le groupe qui ont fait que ils l'ont mis dehors. Je pense qu'il y a.
Toi, tu penses ça, c'est l'erreur originelle. Ouais, fallait le garder.
Je pense sur
Alonso sur la distance un peu, quoi. Exactement. Lui laisser du temps.
Ouais. Et je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont pas du tout été au niveau cette saison, et il y a des joueurs aussi qui pensent qu'ils ont peut-être tous les droits. Mais on peut pas tomber que sur Kylian. Et Kylian, quand tu regardes la saison qu'il fait. Même si on peut attendre qu'il marque plus de buts sur des matchs importants, mais il a quand même été performant, il a quand même mené cette équipe à la victoire à plusieurs reprises. Et que ce qui me fait rire, c'est qu'on me dit quand Kylian n'est pas là, le Real joue mieux et gagne. Ah ok, ça s'est produit peut-être une fois ou deux.
Ce soir, oui.
Mais ce soir, quand il n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Pas
ils ont aussi été éliminés par une équipe de D2 en Coupe du Roi.
Exactement, c'est pour ça que je trouve là on mélange tout et on essaye à chaque fois de trouver, on va dire, Kylian pour moi comme fautif. Même si je pense qu'il y a des choses à revoir, hein, surtout, mais ce qui faisait du Real Madrid une très grande équipe, déjà c'est son groupe. C'était une équipe qui était tellement sereine, ils étaient capables de perdre 2-0, mais tu sentais qu'avec les leaders qu'ils avaient, ils allaient gagner, ils allaient revenir. Là, tu sens qu'il n'y a pas d'équipe. Chacun joue un peu comme il a envie de jouer, chacun fait comme il a envie, et personne n'est là pour prendre le dos, on va dire, de son coéquipier. Et là, tu le sens dans cette équipe, ça va pas. Donc, il faudra faire des choix, il faudra changer ça, parce qu'ils peuvent pas faire deux saisons comme ça blanches d'affilée, et c'est pas normal pour une équipe comme le Real Madrid.
Tu as été surpris par l'histoire de Tchouaméni, hein, connaissant le bonhomme.
Oui, après c'est vrai qu'Aurélien, je le connais. Pas personnellement, mais je sais qu'il est très calme. On sait que dans un vestiaire, il se passe énormément de choses. Et c'est normal. Même moi, j'ai déjà vécu des situations comme ça. Mais normalement, ça reste. Tout ça reste dans le vestiaire. Et c'est ça un peu moi qui m'étonne après qu'il y ait cette réaction-là d'Aurélien ou même ce qui s'est passé avec Valverde. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Mais c'est que ça sorte et qu'en plus
de ça.
C'est vrai
que quand tu t'es battu avec Messi, c'est jamais sorti, par
exemple. J'aurais jamais osé, moi. Oh, il m'aurait
quand tu l'as envoyé à l'hôpital, j'ai pas.
Non, mais ça sortait pas. Et même le Real, pour moi, c'est là où ils étaient forts aussi. C'est que. Il n'y a jamais des choses comme ça qui sortaient à l'époque. En tout cas, moi, quand je jouais, tu sentais que Madrid, c'était fort. Et qu'ils avaient un président qui savait très bien gérer ça. Et là, maintenant, je trouve qu'ils ont perdu les pédales. Ils ont, ça soit dans le jeu, ça soit dans tout ce qui se faisait.
Là, il y a beaucoup à reconstruire. Ouais,
exactement. Je pense qu'il doit vraiment. Il y a une base à reconstruire, oui, totalement.
Mais aujourd'hui, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de coach et il n'y a pas de direction. Donc, en fait, il y a tellement de choses à changer. Et par rapport au sujet des fuites, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a même une sorte de paranoïa qui s'est installée où Arbeloa le dit en conférence de presse. Bon, moi, je suis pas la CIA, je peux pas détecter qui a parlé, mais il y a tellement de personnes autour de l'équipe première qu'en fait, ça peut venir de n'importe où. Et lui dit, mais c'est une trahison pour le Real Madrid, ceux qui parlent. Et parce que c'est sorti extrêmement vite, hein. L'entraînement s'est terminé.
Ouais, enfin, là, t'as qu'un gars qui a fini à l'hôpital. Donc c'est pas anodin non plus, ouais, c'est pas, tu vois.
Tu sens que c'est pas sain. Tu sens qu'il y a un vrai audit à faire. Qui on garde, quelle sera l'ambiance, qui va diriger ce groupe, qu'est-ce qu'on fait des égos qu'il y a dans ce vestiaire. C'est la base dans la construction d'un groupe, c'est de savoir autour de qui tu construis et comment tu vas marier les égos. Et on sait trop parce qu'on l'a vu et on va pas prendre des exemples récents. Tu peux remonter et rester uniquement dans l'histoire du Real. Dans l'histoire du Real, il y a eu parce que n'oublions pas quand même que ce club, on l'oublie un peu trop, mais entre 2002 et 2014, ça a été compliqué pour ce club, en tout cas en Coupe d'Europe.
Ah oui, les fameuses éliminations en huitièmes consécutives.
De 2014 à aujourd'hui, ils en ont gagné une sur deux, en moyenne. Ils en ont fait 3, 4, 5, 6. Ouais. 6, donc 6, 2014, en 12 ans, donc une sur deux, c'est ça. Tu ne notes pas que j'ai réussi un calcul là?
Tu te fous de ma gueule. Plus,
hein. Tu te fous de ma gueule quand je réussis pas les calculs. Bah, là, quand même...
612 ans, c'était pas le calcul non plus de folie de l'année quand même.
Mais bon, il a fallu compter 2004. Non, je trouve que je suis allé assez vite. Je méritais quand même.
Ouais, c'est bien ce niveau.
Bref, 2002, 2004, ça a été dur en Coupe d'Europe. Ils en ont pris des désillusions. Même Lyon les avait éliminés.
Ouais, c'est vrai.
Donc, et durant cette période, il y a eu beaucoup de mauvais choix qui avaient été faits pour diriger l'équipe, pour la gestion des égos. Un empilement parfois de ça. Je rappelle quand même que c'est un club à un moment qui, comme politique sportive, aujourd'hui, on l'admettrait plus quand on parle de tous nos collectifs, de tous les... Tu te souviens quand Florentino Pérez avait eu cette phrase, je la referai pas en espagnol parce que je me souviens plus des mots. En gros, il avait dit les stars et un peu les stars et les larbins un peu. Notre équipe, elle sera composée de stars et
non, c'était pas de larbins. Zidanes et Pavones. C'était ouais, ça la fameuse phrase.
Oui, ça ouais. Voulait dire ça à peu près.
Oui,
bah, en gros, les porcs cordeaux et
les stars et les autres.
Aujourd'hui, on dirait pas un truc pareil.
Non.
Oui, parce que les Pavonais, ils se rebelleraient. Ils diraient, c'est quoi de quoi,
ils n'acceptent pas.
Tu manques du respect.
Aujourd'hui, on dirait pas ça. Mais ça a existé. C'est pas si vieux que ça. Quand c'était. Donc, il y a eu d'autres périodes où on a fait des mauvais choix. Il a fallu se remettre en question. Et là, il va falloir qu'il le fasse. Et les égos, on en a empilé dans ce vestiaire-là. Une autre époque, les Galactiques, ça a été un échec, la politique des Galactiques.
Et n'oublie pas que Florentino Pérez avait démissionné en 2006 en disant justement que son erreur, c'était d'avoir mal habitué, mal éduqué les joueurs du Real Madrid.
Exactement.
On a l'impression, en fait, que 20 ans après, quelque part, il refait certaines des mêmes erreurs.
Et en plus, il est plus autant en forme qu'à l'époque.
Alors, faut qu'on parle un peu du Barça quand même, parce que il y a un truc qui est assez surprenant.
Juste Gilbert, pour terminer sur le Real Madrid, déclaration importante d'Arbeloa, on lui demande en conférence de presse si Kylian Mbappé va rejouer d'ici la fin de la saison. Il a dit qu'il n'était pas sûr et qu'il savait pas encore, ça allait dépendre de l'évolution de ses douleurs aux ischio. Donc,
il leur reste quoi, combien de matchs là?
La Coupe du Monde. Trois matchs.
Trois de championnat encore?
Oui.
Ah, c'est beaucoup.
Donc là, au Barça, ils se sont dit, le Real est tellement nul. Bon, Yamal est pas là, c'est pas grave. Lewandowski, on le laisse sur le banc. Rafinha.
Ça fait un moment que Lewandowski est plus dans le coup.
Rafinha, on le laisse sur le banc aussi.
Mmh. Hein? Parce qu'il revient, il revient de.
Et donc on y va avec Olmo.
Une belle équipe, Torres. C'est cette équipe-là qui a géré, on va dire, le championnat toute cette saison, hein, quasiment. Et c'est pour ça que je dis que Barcelone, ils ont été un peu tout seuls, vraiment sur ce championnat-là espagnol cette année. Ils ont tout le mérite parce qu'ils ont été bons, constants. Mais c'est vrai que le Real, qui normalement est l'équipe qui les met un peu en difficulté, cette équipe n'a pas été là. Et ça soit même l'Atlético, le Barça a joué tout seul ce championnat.
Et Samuel, t'as raison, parce que j'ai l'impression qu'on sous-cote un petit peu le titre du Barça par rapport à l'opposition et au manque d'opposition qu'il y a pu avoir cette saison avec le Real Madrid. Mais mine de rien, là, le Barça, c'est 30 victoires, 1 nul, 4 défaites. C'est quand même...
Non, c'est très fort.
Il n'y a pas aussi un peu le fait qu'ils étaient dans les favoris de la Ligue des Champions, que perdre contre l'Atlético, c'est pas très valorisant.
Oui,
il y a pas une déception liée à ça aussi.
Mais pour moi, il faut faire la part des choses et qu'une saison, vraiment, c'est très long. C'est l'équipe, on va dire, la plus constante qui va arriver à gagner et régulière. Et le Barça l'a été. Il y a certains matchs
avec énormément de blessés.
Énormément de blessés. Ils ont réussi à faire le job correctement. Donc, c'est mérité. C'est mérité. Il n'y avait pas photo sur cette saison. Et cette équipe de Barcelone avait besoin aussi de gagner un titre comme ça important. Ça fait du bien avec cette génération qui prend de l'expérience, qui a du mal encore en Ligue des Champions. Mais je suis persuadé que s'ils continuent comme ça, ça va leur sourire sur les prochaines compétitions.
Et dans la compo d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très intéressant et qui, voilà, je rebondis par rapport au Paris Saint-Germain, même au Bayern. Quand tu regardes le 11, t'as des joueurs quasiment tous qui peuvent jouer à plusieurs postes et c'est vraiment extrêmement fluide avec des joueurs, tu sais, qui vont pouvoir avoir plusieurs rôles dans le même match, pouvoir être déplacés en fonction des besoins du match. Et je trouve que ça c'est dans la continuité de ce qu'on voit chez les toutes meilleures équipes d'Europe, à commencer par le PSG.
Merci Edgar, bonne soirée et à très vite. Il nous reste quelques secondes, je voulais quand même qu'on Il y a eu pas mal d'histoires de violence dans le foot ces derniers jours. Alors évidemment, il y a eu tout ce qui s'est passé après le match, après la qualif du PSG face au Bayern l'autre soir. Mais là, ce week-end, il y a eu un truc assez dingue. Dans les Hauts-de-France, un match entre gamins de 9 ans et un jeune qui a été roué de coups par des gamins de 9 ans de l'équipe adverse.
Wow.
Et qui a fini à l'hôpital. Donc ça se passe dans l'Oise. Le club, on va dire, des jeunes qui ont mis les coups, c'est le club de Creil. Donc c'était un match qui opposait le club de Auchy les mines à Creil. Donc le père du gamin était là et évidemment allait s'interposer pour défendre son fils qui a fini à l'hôpital quand même. Et il dit, le père, le pire c'est que quand mon fils était dans le camion de pompiers, les adversaires ont fêté la victoire. Je veux que cette histoire fasse du bruit. Un jour il y aura un enfant tué. Dit le père.
Je sais pas, je suis sidéré par ça. J'ai vu passer cette histoire.
9 ans.
Je comprends pas.
Ah, c'est vrai.
Moi, je prends.
Voilà, la Fédé a décidé de s'emparer du truc, hein. Donc, bah, il va y avoir des sanctions exemplaires.
Qui convoque les parents, surtout. Tous les parents des gamins qu'on tapé l'autre.
Bah, déjà, les gens de Creil qui vont aller fêter la victoire après un truc comme ça, les éducateurs. C'est assez
déjà, les éducateurs et tout. Que la Fédé fasse une enquête. Si les éducateurs ont vraiment fêté ça, alors que le gamin partait à l'hôpital, cette équipe, elle doit prendre très, très cher. Et les éducateurs en premier.
Ouais.
Mais je pense que... pas si de toute façon.
Ouais, mais je pense que
on n'est jamais assez sévère. De toute façon, ouais. Donc.
Mais on vit vraiment dans un monde de dingue. Vraiment, il se passe certaines choses. J'ai du mal à comprendre sur un terrain de foot avec des jeunes. On en arrive là, c'est très très grave.
Chez les ados, on était bon, c'est assez fréquent. Mais là, des gamins de 9 ans là, ça, j'ai jamais entendu. Bon, espérons bien sûr que
les gens du club de Creil, s'ils nous écoutent, viennent nous expliquer comment ils trouvent décent, digne, humain, intelligent de fêter la victoire, qui viennent défendre leur môme, qui ont fait ça, qui viennent les défendre.
Et apparemment, ils n'ont pas trop aidé non plus à identifier ceux qui ont mis les coups.
Ben évidemment.
Bah, si ces gens-là sont humains, qui viennent nous le dire ici, qui viennent nous expliquer de quelle façon c'est des humains et pas des barbares.
C'est fini pour ce soir, on sera là demain donc en direct de Valence à 22h. Merci Sam, merci Daniel, tout de suite. Le RMC Poker Show, bonne nuit à tous.
RMC jusqu'à 12h30, l'After Foot.